à voix nue. Ce soir encore, Jean-Noël Jeanneney rencontre Anne Pinjot.
Anne Pinjot, bonjour.
Bonjour Jean-Noël Jeanneney.
Parlons d'espace et parlons de temps. Pour retrouver tout ce que cette correspondance que vous donnez à connaître, Anne Pinjot peut nous dire sur la relation de François Mitterrand et par conséquent les vôtres avec l'histoire et avec la géographie. Il y a dans ces lettres une géographie parisienne qui est très frappante. On avait envie presque que vous joigniez un plan avec des petits drapeaux.
C'était un vrai marcheur, hein. Il aime beaucoup ça. Beaucoup, beaucoup. Ça faisait partie de son équilibre, hein, avec le golf, deux ou trois fois par semaine, et puis marcher dans Paris. Et il appelle toujours un ami pour marcher. C'est Georges Darrigian, viens, on va aller de là à là. Et il aime les rues. Et puis, il aime la France. Vous avez été surpris, j'imagine, de tous ces noms qu'il écrit, de tous ces petits villages. Il aime la France.
L'index nous le dit.
Il aime les ruisseaux, il aime... Ouais, ceux-là, ils l'ont gardé, j'étais quand même contente.
Merci,
ils ont
Gallimard.
Supprimé, oui, mais Gallimard a supprimé tout l'index de Paris. Il y en avait, Paris, c'était des pages et des pages et des pages.
C'est un grand tort.
C'est un grand tort, hein. Et tous les bistrots, tous les restaurants, toutes les places, tous les... c'était...
Même Saint-Germain-des-Prés, qui est le cadre de la longue durée de votre présence.
Oui, enfin, en tout cas, dans le sixième, on est resté.
Sixième, on ne dira pas davantage, c'est la rue U.
C'est très joli, la rue U, vous savez, dans le plan aride, des très jolis noms.
Et puis, il y a les voyages avec vous. Il y a Venise, il y a l'Italie.
Jamais de voyage officiel.
Il y a Florence.
Jamais de voyage officiel. Jamais, jamais. Hein. C'est toujours des voyages en dehors. Et oui, beaucoup de villes où on a été heureux, c'est sûr. Et vraiment, on a eu de la chance de rencontrer... Zoran Music chez Ida Barbarigo, qui, d'ailleurs, grâce à Catherine Tieck, hein, qui nous a fait connaître, parce qu'ils avaient cet immense, un étage complet d'un palais sur le Grand Canal, à côté de l'Académie, où nous sommes retournés très, très, très souvent, et qui étaient des hôtes merveilleux. Merveilleux.
Il y a toujours chez lui l'idée que les êtres ont besoin, pour échanger, de passer par des décors, par des lieux, par des intermédiaires, par des truchements. Vous connaissez ma théorie et j'en répète les termes. Les êtres n'ont pas de moyens directs d'échange. Il faut qu'ils passent par un intermédiaire, la beauté, le malheur, l'angoisse, le plaisir, Dieu parfois. Le langage est déjà moins sûr, il colle trop au personnage. Un paysage, un tableau, un chant, ou bien l'espérance, le désir, ou bien la plénitude sensuelle de l'amour sont l'instrument du musicien sans lequel il n'y a pas de musique.
Il parle souvent des quatre chevaux. Il faut que les quatre chevaux, ça marche ensemble. Alors, il y a donc le goût intellectuel d'aller voir des choses ensemble. Bon, et ça revient souvent.
Vous retrouviez aussi dans un sorte de lieu clos et protégé à Souzy-la-Briche.
Alors, Souzy-la-Briche, c'est un truc étonnant. C'est les propriétaires de Souzy-la-Briche avaient décidé de donner leur propriété, qui se composait d'une maison, le 19e moche, mais ça fait rien, dans un magnifique parc. Il y avait une pièce d'eau, une île, et sur l'île, une chapelle ancienne où ils étaient enterrés. Et ils avaient donné à la plus haute autorité de la République, qui pouvait être européenne ou de la présidence française, à la condition qu'on ne s'en serve pour rien, ni colloque, ni travail, ni rien, que pour... profiter de cet endroit. André Rousselet est allé visiter, c'était quasiment abandonné, puisque Pompidou est allé trouver que c'était moche, Giscard trouvait que c'était super moche, mais c'était exactement ce qu'il nous fallait. Pourquoi ? Parce que c'était clos de murs très haut, que c'était très très grand, et qu'on pouvait faire le tour à pied à l'intérieur des murs, donc en protection de cet immense domaine.
Pas de paparazzi.
Pas de paparazzi. Des communs assez grands pour que les gardes y logent, mais loin de la maison. Et là, ça a été le bonheur, parce que Mazarine était petite. Il y avait un tennis. Quand elle a eu 14 ans, il a fait un cadeau immense d'un merveilleux poney. Et donc, tous les week-ends, c'était à Souzy-la-Briche, avec des amis choisis. Pas tout le monde ne venait à Souzy-la-Briche, c'était très limité. Mais on a tourné, on a parlé. Il y avait des arbres fruitiers, il y avait un potager, c'était la vraie campagne. Et ça, c'était c'était 14, enfin, moins de 14 ans, c'était pas tout de suite, peut-être 13 ans de bonheur.
Vivre ensemble, ce dont vous aviez rêvé,
oui.
et, Et l'élection à la présidence de la République, qui d'une certaine
qui
façon vous excluait au moment de l'élection, vous étiez, ou du Panthéon, vous étiez un peu marginalisé. Et en même temps.
J'étais devant la télévision.
Et en même temps, ça vous a apporté ce bonheur-là.
C'était quand même dur de voir les voyages officiels, de voir tous les gens intéressants, tout ça, c'était quand même. Mais heureusement, j'étais prise par mon travail. Sinon, j'aurais pas tenu.
Toute la logique de votre vie.
Je n'aurais pas tenu. Et il y avait, et les soirs, et les nuits, à partir de là, et les week-ends. Quand il n'était pas ailleurs, parce que ça voyageait pas mal. Mais c'est tellement agréable, le soir, après dîner, de sortir, de refaire ces grandes allées. Ça, on a beaucoup, beaucoup aimé.
Ce goût de la nature, tel qu'il le décrit, que vous évoquez à propos de ces moments de grâce. On le trouve constamment dans ses lettres.
Oui.
Il arrive qu'on se dit c'est un petit peu dicté de ses certificats d'études, mais le plus souvent, mais le plus souvent c'est d'une pâte rare. Mm. Par exemple, cette description de la plage du côté d'Ossegor. La plage lisse était intégralement déserte jusqu'aux limites extrêmes de l'horizon. Le ciel immobile et bleu avait encore un peu de la pâleur de l'aube. La mer, admirable dans sa violence sereine, répondait au vent du nord, celui qui porte si loin ses grondements la nuit par une clameur puissante. Je me suis surpris à vous imaginer là.
C'est vrai que ça fait un peu dicté.
Il a gardé, on le voit constamment, le regret ou la nostalgie de n'avoir pu s'affirmer comme écrivain.
Oui.
Vous en parlez souvent ?
Il aurait... Vraiment, c'était, je pense, sa vraie vocation, mais il préférait l'action à tout. Et puis une fois qu'on a mordu à l'action, on ne peut pas s'en défaire, j'imagine. Par exemple, le pouvoir qu'on a sur une salle quand on parle, je pense que c'est quelque chose d'incomparable. Incomparable quand on tient la salle. Et ça, c'est une drogue, j'imagine qu'on ne peut plus s'en passer. Et puis le pouvoir sur les esprits, le pouvoir de gagner. L'écrivain n'a pas ses joies.
Et en même temps, chaque moment de votre dialogue est marqué par une présence de la littérature, de l'histoire. Même quand vous réfléchissez au prénom de l'enfant que vous allez avoir, je ne résiste pas au plaisir de lire cela. Si par malheur, vous aviez envie d'une fille, si par malheur c'était un garçon...
Lui qui avait envie d'une fille.
Pourquoi ?
Parce qu'il n'en avait pas.
Si c'était un garçon par malheur, Côme, Juste, Roc, Tché, ça c'est pas pour s'amuser. Il était allé à Cuba avec Régis Debray. Paulien, Julien, Cyprien, Blaise, Maxence, Géraud, Claude, Laurent, Martin, Paul, Calixte, Mathias, Tristan. Ça vous rappelle des moments de gaieté ?
Oui, c'était drôle.
Et puis c'était une fille, Mazarine en tête, Marie, Catherine, Ariane, Aude, Reine, et Clio. Historien est content qu'il termine par Clio.
Je ne voulais pas un prénom qu'il ait utilisé. Donc ça limitait énormément. D'où la création d'un prénom. C'était ça, l'histoire.
Qu'il ait utilisé, c'est-à-dire ?
Avec qu'il ait eu d'autres amours, avec d'autres prénoms. Je ne voulais pas ce partage infâme.
les auteurs qu'il aimait. Je me rappelle personnellement, c'est une des conversations assez rares que j'ai eues avec lui en tête-à-tête, que nous avons parlé de Casanova, c'était au début des années 1990. Il m'a dit, Casanova, pour moi, j'avais peu fréquenté, il me paraissait un auteur un peu licencieux, sans grand intérêt. Puis je l'ai découvert, et c'est passionnant, et nous avons commencé de parler...
C'est Robert Badinter qui lui a fait, et encore, c'était pas les manuscrits retrouvés.
Qui a été retrouvé depuis. Oui. Oui, c'est une édition antérieure. Nous avons parlé des personnages, de Casanova joueur, Casanova séducteur, etc. Et puis il y a Laclos, Chederlo de Laclos. Les liaisons dangereuses reviennent souvent, Anne Pinjot, dans votre correspondance. C'est à la fois parce qu'il aimait beaucoup ce livre de Laclos et aussi parce qu'il a été avocat. N'oublions pas qu'il a été souvent avocat et qu'il a défendu Vadim qui avait fait un film tiré des liaisons dangereuses.
Oui, et mis à notre époque. Notre séance des liaisons dangereuses m'a permis de mieux analyser les raisons de l'échec d'un film dont les mérites sont réels. Et surtout la principale, les auteurs, Vaillant et Vadim, ont parfaitement compris et transposé le Laclos rapide, cursif, artiste et psychologue. Mais ils sont restés plusieurs crans au-dessous du lac Clos, qui, tout en traitant le drame avec cynisme, l'explore à sa vraie dimension. Et cette pauvre Madame de Tourvel, cette bécasse, qui ne se pose pas de questions sur le baiser non équivoque du premier de l'an, en pleine esquinade, en fausse folie de plaisir, faux, qui se choque du tour que Valmont, la chambre 19, au lieu de tirer le verrou et de dormir sereinement, qui joue à la petite fille Follette, qui se donne petitement, qui bafouille ses roses et son kleps, la Tourvel de la Clos, c'est autre chose. D'abord parce qu'elle est une vraie femme, habitée par un vrai amour, dont la passion et le plaisir sont tellement complémentaires que son plaisir d'appartenir à qui elle aime est une passion où son âme bascule, que sa passion est un plaisir, jusqu'au moment où le mensonge fondamental corrompra et tuera. Ajoutons la pitoyable Annette Streuberg, qui réussit à n'être plus même jolie.
Il joue la présidente.
À n'offrir à son rôle que ce qu'elle peut, ses points de beauté, ma foi fort appréciable et abondamment répartis. Quant à Cécile, malgré sa voix, je l'apprécie plutôt, elle est de la même espèce que Merteuil et Valmont. On peut augurer de sa carrière. Le film ne trahit pas le livre dans l'interprétation de ce personnage mi-fauve, mi-poupée, qui traversera le monde et la vie comme devant les Sunlight avec un sourire cruel et vide.
C'était Gérard Philippe qui jouait Valmont, si j'ai bonne mémoire, voilà, et Jeanne Moreau qui jouait Madame de Merteuil.
C'est un portrait qui l'amusait beaucoup. C'est une plaidoirie tout à fait dans ses cordes.
On voit souvent d'ailleurs dans cette correspondance qu'il vous adresse, Anne Pinjot, on voit souvent allusion à des causes qu'il défend.
Pinjot a écrit qu'il n'avait jamais plaidé. Enfin, ça fait partie aussi des... Enfin, on transporte tant de mensonges. Mais bon, là...
C'est
drôle que les gens ne s'informent pas avant d'accuser.
Vous apportez là un document qui permettra que ceux qui sont de bonne foi s'informent. On le trouve plus musicien.
Ah oui, moi aussi, ça, j'avais oublié.
Parce qu'il avait plutôt la réputation, comme président, de ne pas être spécialement tourné de ce côté-là. La littérature, oui, le théâtre, oui.
J'avais oublié.
Beethoven, la symphonie du Nouveau Monde, de Dvorak, pour laquelle vous avez, vous ne le cachez pas, une dilection particulière, on peut dire ça.
Oui, ouais, c'était le hasard. Mais c'était bien. Mais d'aller chez les disquaires, d'entendre des disques, c'était sidéré. Que ça y comptait.
Vous donnez à connaître des coupures de nappe en papier, vous avez joué ensemble à faire des listes de...
C'est trop stupide, les jeux d'amoureux, c'est tellement stupide. Mais en même temps, c'est...
On ne les prouve pas comme tels. Ouais. Les musiciens, Beethoven de la 7e et de la 5e, Mozart, Schumann. Il y a même beaucoup de goût pour les chanteurs modernes. Brassens, au début, Ferré d'Aragon.
Le Ferré d'Aragon, ça nous accompagnait tout le temps.
Et même Nana Mouskouri, ça surprend davantage.
Oui, oui.
Barbara.
Oui.
Et puis les écrivains, Shakespeare. Il se trouve que Shakespeare surpasse tout.
Oui.
Il vous l'a dit souvent.
Oui, oui. On allait au théâtre aussi, il revenait ébloui par Shakespeare.
Ensuite, Pascal.
Oui, tout le temps. Il en savait par cœur des morceaux entiers. Entier. Et alors, vous savez que moi, je suis née à Clermont-Ferrand, dans la maison où habitait une sœur de Pascal, Madame Florin-Perrier. Donc, c'était à côté du magnifique édifice du 18e. C'était une petite maison basse, où elle se plaignait d'ailleurs d'avoir des rhumatismes, c'était enfoui dans le sol. Mais donc, pour nous, Pascal, c'est de la famille, donc, à peu près. Et c'est resté une longue, longue dilection. Dans les dernières lettres, il en parle encore, de Pascal.
Chateaubriand aussi.
Oui.
Et beaucoup Stendhal.
Énormément. Et je pensais que ça a dû compter. Je viens de relire Lucien Leven, un des premiers qui m'a envoyé. J'avais tout oublié. Je ne pouvais même pas comprendre. Il faut lire plus tard.
Les peintres, alors les peintres, peut-être prenaient-ils le soin de ne pas vous déplaire. Enfin, il évoque un Zurbaran,
oui.
Deux le Caravage,
oui.
Trois Crana. Comment commenteriez-vous cette liste?
Et je pense qu'il l'a gardé jusqu'au bout. Et en tout cas, Caravage, il aimait. Il aimait vraiment. Côté réaliste, violent.
Littérature. Il y a un personnage qu'il évoque souvent avec un intérêt spécifique, c'est François Mauriac.
Oui.
Qui avait été assez sévère à son égard. Et c'est dans le journal, ça. À un moment donné, il découpe pour vous l'extrait d'un article de Mauriac où il est beaucoup plus indulgent.
Oui.
Tiens, il évolue,
oui.
Dit-il. Hein,
oui.
Ça.
Mais je crois que Mauriac, elle avait protégé, parce qu'au 104, il m'avait dit qu'on avait sûrement une pension de faveur, comme ils étaient très très nombreux.
Au 104 rue Girard.
Oui, rue Girard, que Mauriac avait dû intervenir pour que ces personnes bien pensantes puissent avoir une chambre d'étudiants.
Ça n'empêche pas de citer ce poème de Mauriac. « La chair encore endormie, je pars au petit jour sombre, sans pouvoir sortir de l'ombre que ton corps fait sur ma vie. »
Pas mal.
La poésie est très importante pour lui.
Oui,
c'est aussi une manière de vous parler, vous séduire, Anne Pinjot.
Oui.
Il recopie en particulier de nombreux poèmes du fou d'Elsa, d'Aragon. Il aime beaucoup Aragon. Et puis de temps en temps, il se fait poète lui-même.
Oui.
Vous pouvez nous donner un de ses poèmes, un de ceux qui vous a le plus touché?
Il y a la gravité du livre qu'on s'interrompt de lire pour écouter son cœur ou pour sécher ses yeux. Il y a la noblesse partagée d'une conquête à faire, d'une œuvre à achever. Laquelle ? Vivre sans jamais abandonner ta main, vivre sans jamais abandonner ce que j'aime de toi, par toi et avec toi. Vivre sans jamais renoncer aux seules raisons de vivre. Vivre sans jamais oublier la prière de ce matin. Et qui ressemble, ô âne, il faut me croire, à l'âme que tu cherches. Petite prière pour un dimanche soir. Crois-moi. Et crois-moi, c'est la seule chose qu'on peut pas croire. Pour les fleurs que tu n'as pas reçues, pour les livres que je ne t'ai pas lus, pour les pays que nous n'avons pas vus, pour les bonheurs perdus, je te demande pardon, mon âne. Pour l'amour que je t'ai mesuré, pour la paix que je t'ai refusée, pour les heures que je ne t'ai pas données, pour l'espérance délaissée, je te demande pardon, mon âme, pour les paroles inutiles, pour les silences distraits, pour les rendez-vous manqués, pour les pas dispersés, pour les prières oubliées, je te demande pardon, mon âme, pour la ferveur de chaque jour, pour l'attente de chaque nuit, pour la pensée de chaque matin, pour la passion de chaque étreinte, pardonne-moi mon âne. Alors ça c'était Anne 1, maintenant il y a Anne 2. Pour les lupins de Saint-Benoît, pour les œillets du Luberon, pour les immortels d'Éphèse, pour les roses de Paris, pardonne-moi mon âne. Pour les mûriers de Gordes, pour les herbes séchées de Cordes, pour les lichens de Vézelay, pour les lilas de l'Oratoire, pardonne-moi, mon âne. Pour les iris du 39, pour les gueules de loup de Sauzé, pour les camélias d'Osegor, pour les teints de la Borie, pardonne-moi, mon âne. Pour l'ocre rouge de Venise, pour le bleu de Constantinople, pour le blanc de l'Argolide, pour l'or de Montréal, pardonne-moi, mon âne. Anne 3. Pour le dîner de la bouteille d'or, pour les déjeuners du Saint-Louis, pour les soupers de la coupole, pour les petits déjeuners de nulle part, pardonne-moi mon âne. Pour l'église de Saint-Ilide, pour les chemins de Nabineau, pour la halte de Montredon, pour la rue de Saint-Sulpice, pardonne-moi mon âne. Pour la nuit de Chanehutte, pour les nuits de Saint-Benoît, pour la nuit du Jet, pour la nuit d'Atlanta, pour les nuits de Riotor, pardonne-moi mon âne, pour la première nuit, pour les plus belles nuits, pour les plus tendres nuits, pour la dernière nuit, pardonne-moi mon âne, pour notre âme, pour notre corps, pour notre douleur, notre joie, pour notre solitude, notre mort, pour mon chagrin du fond des mers, pardonne-moi mon âne. Anne 4. Pour l'ultime prière, pour la grâce, pour l'eau fraîche, pour le feu, pour la lumière, pour ta main sur mes yeux, pardonne-moi mon âne, pour mon sang, pour mes mains, pour mes genoux entre les tiens, pour ma bouche et pour mon front, pour mon désir, pour mon sommeil, pardonne-moi mon âne, pour Saint François et pour Sainte Anne, pour les larmes sur mon visage, pour qu'un Dieu naisse avant qu'il soit trop tard pour moi, et pour l'amour de toi, pardonne-moi, mon âne.
16 juillet 1970.
Il y a des moments de confidence, de confiance plus émouvants encore. Le moment où il apprend, après quelques mois à l'Élysée, que...
Ça se passait là, devant une autre cheminée, là. Je le vois encore. On est avec un espèce de bouquet, c'était après le 11 novembre, il y avait des manifestations. Et il me dit, voilà. Et là, moi qui garde tout, j'ai perdu la foi que j'avais pendant toutes ces années où je passe mon temps à la messe. Mais c'était tellement terrible. J'avais une Bible là, que j'ai ouverte au hasard. Il s'est assis sur ce fauteuil à côté. Et vous savez comment on ouvre au hasard pour avoir une réponse. C'est stupide. C'était un texte magnifique, d'espérance. Et je ne l'ai pas marqué. Moi, j'ai fait ça, je ne l'ai pas marqué. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Et puis voilà, il y a eu jusqu'en 95.
Vous reproduisez deux messages, chacun d'une ligne.
Alors ça, donc il est revenu, c'était donc le 11 novembre, je l'ai dit.
1981.
Donc après avoir enfin, après cette vie de conquête, hein, avoir obtenu ce qu'il voulait faire, il apprend... cette décision des médecins, comme quoi il avait un cancer avec des métastases et qu'il aurait pour 3 mois, peut-être 2 ans. Et j'ai cette lettre avec donc, en tête du président de la République, aujourd'hui, passé aux assises, la peine de mort est rétablie. Mais là, j'ai vu ce que c'était que le courage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... une plainte ou un mot, rien.
Et que dit le second message ?
J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il faisait en partant. C'est une étonnante histoire, hein, parce que
Prévert.
Il était avec un nom anonyme au milieu de tous les gens qui étaient dans le même cas, et on suivait les choses. Et tout d'un coup, de survivre comme ça, non, sans quel prix, hein, parce qu'au début, la médecine était très très douloureuse. Hein. Je viens d'un voyage en Algérie, il m'a raconté où c'était le matin, le docteur Goublet lui faisait comment il pouvait tenir ? C'est-à-dire, l'énergie de cet homme est incomparable, incomparable. Vraiment. Traverser ça, il s'est cru guéri.
Quand ?
Bon, quand il s'est représenté, il s'est cru guéri, vraiment.
En 88 ?
Oui.
Quand il parle de la mort, ces lettres qu'il vous adresse un pinjo, toujours une tonalité particulière.
On était des grands, on se promenait beaucoup dans les cimetières, parce que c'est des lieux de réflexion. La mort, elle intéressait. Hein. Beaucoup.
Vous voyez donc ce texte concernant la mort de Félix Gaillard, qui était son contemporain, qui avait été président du Conseil.
Ils avaient été un peu adversaires.
Hein. Oui, à la fin de la 4e République, ouais. Ce que lui avait beaucoup souhaité être à ce moment-là, et qui s'est noyé en mer. J'apprends cette mort terrible en lisant le journal. Gaillard et moi, dit-il, deux Charentais, entrés ensemble au Parlement, partenaires et parfois rivaux, souvent peut-être, mélange ambigu de relations cordiales. Une des plus belles intelligences, froide, mécanique, beaucoup de séduction, mais frelatée par l'abus des chances et des commodités. Je reconnaissais dans son style la grande tradition de Chardonne, hein, Jacques Chardonne, dont on a tant répété que c'était un de ses auteurs favoris. La retenue, le mot juste, pas davantage, et tout était dit. Il s'était marié tard avec une jeune femme dont il avait 3 enfants, qu'il aimait. Cette femme attend maintenant dans une belle villa de Bretagne, sur la côte de la Manche. Des amis viennent, parlent, étourdissent. On se raccroche au moindre signe, puis le silence. Le silence du temps qui passe. Plus de journalistes, plus d'angoisse à en perdre la tête. Le silence. Les amis ont leur propre vie, leur propre peine. Où seront-ils dans 10 ans? Rien ne bougera plus dans la campagne morte. Les souvenirs sont dans l'herbier. On va à la mer, aux vacances. Le chagrin, le pire chagrin, le passé qui fuit par les canaux de la mémoire. Je pense à la douleur des vivants qui aiment, et surtout qui continue de vivre dans un univers décoloré. En réécoutant cette lettre à Anne Pajot, vous devez vous dire que vous avez rudement bien fait de la publier.
Vous cherchez les arguments. Il m'avait toujours mis en dire de ne jamais s'installer sur les photos jaunies, de ne pas regarder les photos jaunies. Et en même temps, la première mort qu'il a déchirée, celle de sa grand-mère, pourquoi il pleurait? Il avait peur d'oublier. C'était Céline qui disait la grande défaite en tout, c'est d'oublier.
À l'Élysée, il avait mis d'ailleurs beaucoup de photos de sa famille derrière son bureau.
Oui, oui.
La mort de sa grand-mère, on y retrouve effectivement toute la saveur de la mémoire de son enfance de Jarnac qui, au fond, était si proche, vous l'évoquiez précédemment, Anne Pajot, de la vôtre.
Oui.
À tant d'égards. Je te rappelais hier, vous écrit-il, la première mort que j'ai vue, qui m'a frappé au cœur, celle de ma grand-mère. J'étais assis dans un fauteuil au coin de la chambre d'en bas, très clair, quand les volets ne sont pas mis clos pour les morts. Elle était étendue sur le lit, très belle, je crois, avec le profil de ma sœur Colette. Je la regardais, les yeux dévorants, pour être sûr de graver l'image, et surtout pour lui promettre, me promettre, de ne jamais oublier cet instant, notre amour, les jours vécus dans la grâce de l'enfance. Il y a tellement longtemps de cela, l'image s'est parfois brouillée, mais elle est là maintenant et m'accompagne. Je peux lui dire humblement, avec quelques pardons, que j'ai été fidèle.
Oui. C'est quelqu'un qui, tous les soirs, avant de s'endormir, faisait la liste de ses morts.
Ils étaient nombreux.
Ils étaient très nombreux dans la famille.
Comme beaucoup d'autres, j'ai le souvenir de François Mitterrand sur son lit de mort.
Oui.
Dans ces derniers temps aussi, vous avez été toute proche de lui.
Oui, parce que les dernières nuits, moi j'habitais à Frédéric Leplay. Je sortais le chien le soir, et quand il n'y avait plus personne. Le Champ de Mars, c'est moi qui le faisais avec Baltique. C'est pas moi qui ai pris la photo sur le lit de mort, pourtant j'aime tellement prendre les photos, mais c'est Baltique qui était allongé contre le cercueil. C'est pas beau, ça? Comme chez les gisants. Mais là, c'était... Le cercueil était sur une espèce d'estrade, et Baltique était allongée, comme elle dormait toujours à côté de nous.
Symbole de fidélité, chez les gisants, non?
Oui, c'était beau.
Anne Pajot, je vous suis très reconnaissant d'avoir accepté cette conversation, et j'ai le goût, pour finir, de vous demander s'il y a des aspects de cette histoire... de votre histoire partagée avec François Mitterrand, dont le reflet magnifique avec cette correspondance profuse nous est par vous aujourd'hui proposé, si certains aspects n'ont pas été par nous évoqués comme il aurait convenu, telle ou telle question que pour finir vous aimeriez faire surgir ici à ce micro.
Je crois que c'est un personnage qu'on ne peut pas cerner parce que d'abord il ne voulait pas, d'où peut-être la faute qu'est cette publication. Parce que ça révèle beaucoup, beaucoup de choses, mais en même temps, ça révèle sa richesse. Bien sûr, on a oublié mille choses, mais c'est que la lecture de ces lettres, c'est-à-dire ces plus de 1000 pages, qui peut donner les réponses à certaines questions qu'on pourrait se poser. Il y a des allées, il y a des retours, il y a quelquefois des espèces d'éclairs. On ne peut pas éviter la lecture pour comprendre.
Merci beaucoup d'avoir été à ce micro. Merci Anne Pajot.
Fin de cette rencontre de Jean-Noël Jeannonet avec Anne Pajot. À voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon. Prise de son Jérémy Tuile. Réalisation Anne-Laure Chanel. Coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se télécharge sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre.